Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec cette thématique en effet intéressante. À mon avis, comment nos parents ont-ils influencé ou nous influençons nos enfants à la relation à la nourriture? Quel est un petit peu l'impact que nous avons? Qu'est-ce qui fait que certains se ruent sur la nourriture, d'autres la savourent ou que d'autres ne sont pas du tout attirés par elle ou plus du tout attirés par elle à un moment donné? Alors sans le vouloir, c'est vrai que nos parents ont impacté notre relation à la nourriture et parfois de façon très subtile et tout à fait involontaire. Encore une fois, c'est parfois des maladresses peut-être parentales que nous commettons, qui ont été commises. Est-ce que ça vous parle? 070 23 33 23 SMS 30 63. Nous allons découvrir quel type de comportement, d'expérience, de croyance de nos parents influence nos comportements alimentaires. De nombreuses personnes entretiennent une relation difficile et malsaine avec la nourriture. Ce sont des troubles alimentaires, c'est de la culpabilité, ce sont des traumatismes, c'est de la honte aussi, c'est au niveau de l'image corporelle, la honte de son poids, la honte de son corps, de son alimentation, de sa façon de gérer cette alimentation. Bref, il y a de nombreuses approches aujourd'hui qui visent à guérir, entre guillemets, notre relation malsaine avec la nourriture. Et Marie-Pierre Preud'homme est évidemment praticienne, elle connaît bien ce sujet qui fâche parfois et qui amène beaucoup de souffrance. Alors si ça vous parle, si vous pensez que vos parents vous ont transmis de mauvaises habitudes ou leurs mauvaises habitudes sans trop le vouloir ou leurs problèmes d'image corporelle, venez en parler avec nous. 070 23 33 23 SMS 30 63.
La vie du bon côté.
Marie-Pierre Preud'homme, donc notre invitée d'aujourd'hui. Je pense que dans vos pratiques, Marie-Pierre, vous avez en effet des personnes qui viennent vous voir en disant
oui.
Sonnette d'alarme, on n'est pas bien.
Énormément de demandes. Donc moi, je suis spécialisée dans les troubles alimentaires.
Oui.
Donc je fais énormément d'accompagnement de personnes en souffrance par rapport à leur comportement alimentaire. Et ben, il est fréquent qu'on se pose un petit peu question oui. de ce qui s'est passé dans l'enfance, ou parfois c'est quelque chose qui émerge, ou ouais. les parents ils font ce qu'ils peuvent. Hein. L'idée c'est sûrement pas de culpabiliser les
c'est
parents.
C'est ça que je dis, sont des maladresses, parfois voilà. On ne fait pas attention, hein, c'est
des
la façon.
Maladresses.
Ou même nous, hein.
Voilà,
ou
des mal-êtres, des choses qui, ouais. voilà, qui sont là chez le parent, qui veut aussi faire de son mieux. On retrouve parfois des parents qui veulent vraiment tellement prendre soin de l'alimentation de leur
ils
enfant
en font trop.
Qu'ils en font trop.
Ouais.
Oui.
Un ou deux exemples peut-être de questions. Quand est-ce qu'il faut se questionner par rapport à la relation à la nourriture? Un ou deux exemples qui sont plus flagrants.
Je pense qu'il faut se questionner par rapport à sa relation à la nourriture, pas nécessairement quand on a un surpoids,
ouais.
mais plutôt quand on a des fluctuations au niveau du poids, ouais. donc grossir, maigrir, le système yo-yo, quand on est obsédé par les régimes, obsédé par les calories, quand l'alimentation empêche aussi au niveau social, donc ouais. on va se priver de voir des gens, se priver d'aller au restaurant, de ouais. partir en vacances, quand il y a des obsessions qui tournent autour de l'alimentation, et quand la nourriture est régulée par les émotionnel. Donc les personnes qui ont tendance à manger ou à compulser en réponse à du stress ou à des émotions qui sont difficiles à gérer. Ça, ce sont quand même toutes sortes de situations dans lesquelles on peut se poser question.
D'accord.
Et se dire, il est possible que j'améliore ma relation à la nourriture, que je la pacifie en tout cas.
Bon, voilà déjà des exemples qui vont peut-être faire écho du côté de nos auditeurs et certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que vous venez de citer comme exemple. 070 23 33 23 SMS 30 63 50 centimes par message envoyé. Comment nos parents ont-ils influencé, peut-être sans le vouloir, notre relation à la nourriture? Vivacité. Boulevard désert, ils sont pas seuls, avec Vianney sur Vivacité. Comment nos parents influencent-ils ou ont-ils influencé notre relation à la nourriture? Voilà le titre, l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui, avec déjà un témoignage dans quelques instants. Marie-Pierre Preud'homme, qui est coach humaniste spécialisée en troubles alimentaires. Marie-Pierre, j'ai deux communications de service. Je peux?
Profitons-en.
Non, dans 15 jours, dans moins de 15 jours, nous partons en croisière. Ça, c'est déjà une information. Et nous avons deux désistements. Nous avons deux cabines qui se sont désistées. Je voudrais simplement lancer l'appel. Si vous pouvez prendre, bien sûr, congé, et si vous pouvez partir comme ça, il y en a beaucoup qui voudraient lever la main en disant On sait jamais, on sait jamais. Moi, je crois pas au hasard. Donc, je me dis, vous écoutez l'émission en ce moment. Vous avez toujours eu envie de venir avec nous prendre la vie du bon côté, surtout sur cette croisière sur le Danube, puisque c'est sur le beau Danube bleu qu'on va vous emmener du 8 au 15 mai, le second plus long fleuve d'Europe, à la découverte de pas moins de cette magnifique ville, voilà, dont Vienne, dont Bratislava, dont Budapest. Ben, venez prendre contact avec nous. Voilà, vous m'envoyez un petit SMS et je vous expliquerai tout ça hors antenne. Ça, c'est la première communication de service. La deuxième, c'est que nous avons notre café à Anu ce soir. Le café de la vie du bon côté, c'est à Anu ce soir, avec Esmeralda Bernard, qui fera une conférence sur l'intuition, comment mieux développer son intuition. Voilà, Esmeralda Bernard, qui est auteure, conférencière, formatrice. Comment développer, améliorer son intuition? Elle va dans la salle à Anu. Nous serons au Comte de Champagne, à la rue de Huy. Donc, il y a une conférence et un repas. Elle va vraiment nous soumettre à un test. Elle m'a dit, Sylvie, on va faire un truc incroyable. Je vais mettre une photo dans une enveloppe. Ça fait un peu mentaliste, hein. Et tu vas être étonnée du nombre de personnes qui, grâce aux exercices que je vais leur faire pratiquer, vont être capables de dire ce qu'il y a dans l'enveloppe. Moi, je ne demande qu'à voir, hein. Donc, c'est ce soir, voilà. Vous pouvez venir, il y a encore de la place. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Comment améliorer et développer son intuition? Au Comte du Champagne, au 23 rue de Huy. C'est à Anu, ce soir, à partir de 18h30, conférence à 19h et vous pouvez rester pour le repas juste après. Voilà mes deux communications de service. Dans quelques instants, on entend Stéphanie qui nous parle d'une relation difficile à la nourriture et je pense qu'elle est exactement dans ce que vous avez envie d'entendre comme témoignage, Marie-Pierre, et d'y apporter bien sûr des solutions et de la réflexion par rapport à ce qu'elle vit. Marie-Pierre Preud'homme, notre invitée d'aujourd'hui, elle est coach humaniste et spécialisée en troubles alimentaires. Je pense que c'est important que nous parlions de cela encore et encore, cette influence qu'a pu avoir nos parents sur notre relation à la nourriture et que nous pouvons peut-être aussi avoir en ce qui concerne nos enfants. Il est utile de questionner sa relation à la nourriture, vous l'avez dit, hein, Marie-Pierre, quand il y a des phobies par rapport à la nourriture, par rapport au régime,
des obsessions
qui empêchent parfois d'avoir une vraie vie sociale, en disant « Ah non, pas du tout, je peux pas manger ça » ou « On se focalise sur certains aliments » ou on est un peu en yo-yo au niveau des régimes, on grossit, on maigrit, enfin bref. Il y a de toute façon des choses qui sont vécues par nos auditeurs puisqu'on a pas mal de réactions. Dont la vôtre, Stéphanie. Je pense que c'est important de commencer par votre témoignage dont vous acceptez de prendre la parole. Bonjour Stéphanie.
Bienvenue. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Merci.
Vous avez toujours été privée étant enfant?
Oui, tout à fait.
Ayant une maman obèse, c'est ce que vous dites dans votre
message. En fait, ma maman a été obèse,
oui.
Étant plus jeune. Et en fait, quand elle est tombée enceinte, elle était très grosse. Et après l'accouchement, elle a eu un déclenchement, on va dire. Elle se dit, je dois perdre du poids. Et donc, fatalement, pendant toute mon enfance, elle a reproduit un processus avec moi où je ne pouvais plus rien manger. C'est-à-dire les choses saines, hein. Je pouvais manger du pain, du poisson, etc., toutes ces choses-là, mais aucun plaisir d'enfant.
Et quand vous dites, vous aviez quel âge à l'époque? On situe un peu...
Depuis toute jeune, depuis tout enfant, j'ai le souvenir que je ne pouvais manger aucun chocolat, aucun biscuit, jamais rien.
Privé de tout ça, dès l'enfance, quoi?
Oui.
Interdiction formelle?
Oui. Et à part quand on était dans une fête, etc., c'était extraordinaire, mais j'étais toujours très contrôlée.
Ok.
Voilà, dans les quantités, etc. aussi. Donc, ouais. Fatalement, quand j'allais dans des fêtes extérieures où je n'étais pas regardée, c'était la fête pour moi aussi, parce qu'en fait, je me ruais sur la nourriture dès que je pouvais.
Mmh. Ouais. Normal peut-être, Marie-Pierre,
tout à fait
ce genre
logique,
de réaction.
Hein,
j'allais vous demander en effet si en cachette, Stéphanie, ou à l'école, vous échangiez des collations. Et quoi, à l'école, vous avez des collations saines alors, si je peux utiliser ce mot-là?
Oui, tout à fait. Et à l'époque, en fait, en plus, on n'avait pas les collations parfois imposées par l'école, comme on fait maintenant avec les fruits, les biscuits, etc. Donc, on avait ce que les parents nous donnaient. Et puis, c'est vraiment à l'époque où je suis arrivée en secondaire, on va dire, où là, je pouvais facilement acheter quelque chose. Ou si j'arrivais plutôt en ville, voilà, j'achetais quelque chose que je ne pouvais pas, mais je mangeais en cachette.
Mais oui.
Et actuellement, la relation à la nourriture, elle est comment ?
Ah, très compliquée.
Oui, oui.
Très, très compliquée. J'ai une très grosse prise de poids. Alors du coup, c'est ça que je me reconnais un peu dans tous les exemples, parce que c'est une prise de poids qui est là depuis plusieurs années, avec des effets de yo-yo où je perds du poids, puis je grossis, etc. En cas de stress, ben, je me rue sur la nourriture. En cas de coup de mou, je me rue sur la nourriture. Voilà. Mais toujours en étant culpabilisée. Enfin, je culpabilise beaucoup.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs aspects dans ce que Stéphanie évoque. Il y a le fait d'être simplement privée, donc elle est dans la frustration. Ça, ouais. C'est l'effet régime. Hein. Quand on définit un régime, c'est une courte période de frustration qui précède une prise de poids. Ben, ici, on est là-dedans. On est dans la frustration. C'est la maman qui impose et qui sait mieux qu'elle si elle a faim, si elle n'a pas faim. Et puis alors, il y a tout l'aspect plus subtil, alors relationnel, où ben, quelque part, maintenant, dans la vie d'adulte, mais Stéphanie peut être, je ne sais pas si c'est le cas, mais inconsciemment dans une attitude où elle s'affirme, et s'affirmer, eh bien, c'est être exactement l'inverse que ce que sa maman voulait qu'elle soit.
C'est ça le danger.
C'est exactement ça le danger. Et donc ça part vraiment d'une intention très très positive de la part de la maman.
Ouais.
Mais c'est tellement contrôlant. Oui. Et si, ben, à partir du moment où l'enfant arrive à être comme un petit fou quand il y a de la nourriture, on se dit il y a vraiment un problème. Mais après, il y a tout cet aspect de je prends ma place, je m'affirme et je vais m'affirmer tout au long de ma vie d'adulte pour faire l'inverse, en faisant l'inverse de ce que ma maman a voulu m'imposer et m'a imposé. Donc là, il y a un travail sur soi qui est quand même qui pourrait vraiment être très très aidant pour sortir de ce comportement-là.
On n'a pas fini de répondre à votre question, Stéphanie, donc je sais que vous resterez à l'écoute. Et je vois d'autres messages qui viennent un petit peu compléter le vôtre, mais d'attitude un peu comme la vôtre. Donc voilà, donc je pense que c'est important et c'était intéressant d'avoir votre appel en premier. Donc Stéphanie, restez à l'écoute, on n'a pas fini de parler de vous et de ce problème-là. Whitney Houston sur Vivacité, c'est à vous maintenant de venir prendre la parole sur votre relation à la nourriture aujourd'hui, peut-être influencée par vos parents, et c'est peut-être en écoutant l'émission que vous allez avoir le déclic de vous dire « mais c'est bien sûr ». Je pense qu'en effet, ça part de là. 070 23 33 23, SMS 30 63. Marie-Pierre Preud'homme, coach humaniste et spécialisée dans les troubles alimentaires. C'est dire en effet qu'il y a une vraie souffrance de la part de personnes qui nous écoutent, qui ne témoigneront pas, parce que c'est intimiste aussi hein, de parler de ça. C'est pas facile. Ça donnera peut-être des déclics en effet à certaines personnes qui vont se dire « mais oui, j'ai eu une mère, un père obsédé par les régimes, ou j'ai eu des parents qui ont vécu dans l'insécurité et ça s'est un peu reflété sur moi ». C'est un autre exemple. Mais
oui,
c'est
tout à fait. Des parents qui ont vécu des circonstances économiques difficiles
et qui ont
été dans cette peur de pas avoir de toit, peur de manquer d'argent, peur de manquer de nourriture. Et ce qu'on remarque aussi dans le transgénérationnel, c'est que parfois on retrouve ça au niveau de grands-parents, ça émerge en thérapie alors que la personne n'était pas spécifiquement au courant de la difficulté. Et puis elle creuse un petit peu, elle va questionner dans la famille et on découvre que ça a existé. Et en fait, c'est quelque chose qui a été transmis. On retrouve ça chez des personnes qui vont stocker aussi bien de la nourriture dans leur placard que dans leur corps, qui vont être en surpoids. Et quand elles vont faire leurs courses, eh bien, c'est avec un semi-remorque. Hein. On n'y va pas de main morte. Et il faut stocker, il faut toujours avoir chez soi parce qu'on ne sait jamais.
Les parents qui veulent trop bien faire, donc ça reflète encore une fois un peu le cas de Stéphanie. C'est des personnes qui ont voulu bien faire.
Qui ont voulu bien faire. Et puis là, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les parents qui ont eu des difficultés eux-mêmes, qui sont parvenus à gérer leur poids et leur relation à la nourriture. Mais peut-être davantage leur poids que leur relation à la nourriture, parce qu'ils restent obsédés par ça et ils ne font pas confiance à l'enfant non plus par rapport à sa façon de gérer la nourriture. Donc il peut y avoir des parents qui en fait font une sorte de projection et ils veulent que leur enfant réussisse ce que eux ne sont pas parvenus à faire, et puis ce n'est pas très très agréable peut-être à entendre, mais il y a aussi des tentatives de vouloir prendre le contrôle sur l'enfant parce qu'ils n'ont pas pu prendre le contrôle sur eux-mêmes. le contrôle de la nourriture leur a échappé. Et donc, ils vont déplacer ça et vouloir contrôler le comportement alimentaire de l'enfant. Mmh. Et ça, malheureusement, la probabilité pour que ça soit complètement voué à l'échec, elle est relativement élevée.
On rappelle bien sûr, on insiste sur le fait qu'on ne veut pas culpabiliser les parents.
C'est pas le but.
C'est pas le but.
On fait ce qu'on peut. Il y a pas d'école de
voilà,
parents.
Voilà, hein. C'est pas du tout une émission dans l'idée de culpabiliser les parents, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire de notre mieux. Et encore une fois, des parents qui privent les enfants, c'est pour leur bien. C'est,
voilà.
C'est parce que même ont peut-être aussi vécu certaines choses difficiles. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. 070 23 33 23 SMS 30 63. Doc Géo parlera tout à l'heure des mythes alimentaires. Je crois qu'il a des choses aussi à dire sur ça. Ça le touche assez fort. Et bon, c'est normal. C'est un médecin, donc, et il sent les choses. Il analyse très très vite les choses. Donc c'est sûr qu'il sent quand dans une famille où il arrive, la relation avec la nourriture est compliquée. C'est à vous d'en parler. Si vous souhaitez en parler, si ça ne remue pas trop de choses non plus difficiles à vivre pour vous. 30 63 070 23 33 23. C'est à vous aussi de nous donner peut-être l'exemple que vous avez vécu personnellement et qui aujourd'hui vous touche encore. Vivacité. Marie-Pierre Preud'homme, notre invitée d'aujourd'hui, elle est coach humaniste, spécialiste de troubles alimentaires, et Dieu seul sait qu'elle connaît ce sujet. Voilà, parce que comme elle me dit hors antenne, c'est beaucoup de personnes qui viennent la trouver pour en parler. Elle essaie de remonter en effet à ce qui s'est passé dans l'enfance. Vous me parliez, il y a quelques instants, je trouve qu'il faut vraiment le dire, ce que vous appelez la nourriture réconfort.
Voilà, donc c'est le fait de donner du sucre ou un aliment, enfin, il est souvent à saveur sucrée, ouais, à un enfant quand il est triste ou pour détourner son attention quand il se fait un petit bobo. Et c'est un réflexe qui est tellement bienveillant et qui est tellement courant, mais en attendant ça devient un réflexe qui est j'ai mal, et bien je me réconforte avec quelque chose de sucré. Et ça commence vraiment dès le plus jeune âge. Un enfant qui pleure, on se dit qu'il a faim, et voilà, on va aller vers lui
pour qu'il aille mieux, on le nourrit
pour qu'il aille mieux, on le nourrit
pour qu'il ne pleure plus,
voilà. Et donc ça, ce sont de petits gestes qui peuvent être à revisiter. On sait que, par exemple, quelque chose qui va apaiser un enfant sans lui amener du sucre, c'est de caresser juste en dessous de la lèvre inférieure. Et là, il y a une zone qui est assez sensible et qui est apaisante. Et donc, pourquoi pas plus aller vers le kinesthésique.
Ici ?
Oui, voilà, on ne voit pas beaucoup en radio.
La lèvre, quoi.
Voilà, juste en dessous de la lèvre inférieure, une toute petite caresse comme ça, un aller-retour. C'est quelque chose qui peut vraiment être apaisant.
Comme quand on réfléchit.
Exactement. Donc ça peut être un geste aussi qui indique qu'on est un peu dans le stress. Et donc on va travailler au niveau de l'oralité, et ça peut vraiment être apaisant. Et donc des choses qu'on peut mettre en place comme ça, qui sont toutes simples, comme de prendre plus un enfant dans ses bras, de le toucher, de le câliner, plutôt que de donner donner un bonbon.
Oui, ou alors si tu es sage, tu auras...
Exact.
Une glace.
Voilà, la récompense.
La récompense, ça aussi, c'est pareil.
Pourtant, il y en a tellement d'autres à offrir, hein, que ce soit un moment à vivre ensemble. C'est plus de miser là-dessus. Alors, il y a cette nourriture réconfort aussi qui est qu'on se donne à soi-même. Dans des situations de famille où on ne trouve pas sa place, et Dieu sait si à notre époque avec les familles recomposées, mais c'est quand même un exploit que de pouvoir recomposer une famille, et que chacun puisse trouver sa place et que chacun puisse sentir une certaine justice et une certaine équité dans tout ce qui se passe, ce n'est pas évident du tout. Et donc il y a toutes sortes de situations qui peuvent se présenter en famille où l'enfant peut avoir l'impression de ne pas avoir sa place ou qu'il se passe une injustice, et il va se réconforter lui-même en allant chercher de la nourriture plutôt que de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours facile pour un enfant, ou d'oser faire des choses. Eh bien, il va lui se réconforter par la nourriture.
Est-ce que ça vous parle? Hein, là, je m'adresse aux auditeurs parce que c'est vrai que c'est important ce que vous dites, nourriture et confort. Attention! Attention, on fait ça évidemment dans un but de faire plaisir. Si tu es sage, tu auras la glace, ou même t'en auras peut-être deux. Hein, t'auras même deux. Oui, hier t'en as pas eu, donc t'en auras deux aujourd'hui. Enfin, attention, attention, et on fait ça, on se dit, bah oui, c'est qu'une glace, quoi, c'est pas, attention. Parce qu'elle est associée en effet à du réconfort ou à un cadeau, enfin, quelque chose qui vient gâter, enfin, une gâterie, voilà, et faut vraiment faire attention, surtout avec le sucre, bien sûr. 070 23 33 23 SMS 3063. On aura un médecin qui, dans quelques instants, ira certainement dans votre sens. Les mythes alimentaires. Il parlera de mythes alimentaires qui sont démontés ou pas. Voilà, Doc Géo qui viendra nous rejoindre. Et puis c'est à vous de prendre la parole si tout ça vous parle, si ça fait remonter en vous des choses pas faciles en effet, et pourtant vous aviez l'impression que c'était un comportement qui vous a réconforté d'une certaine façon, mais qu'aujourd'hui en effet aussi, dès qu'il y a un petit sentiment d'inconfort, vous vous ruez sur le chocolat ou la nourriture sucrée. Voici Florent Pagny.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Marie-Pierre Preud'homme, que vous connaissez maintenant, Doc Géo. Il y a des visages qui vous sont familiers maintenant, à force de revenir comme
bien
ça.
Sûr,
hein,
tout à fait.
Régulièrement. Voilà.
Bonjour Marie-Pierre, bonjour Sylvie.
On parle d'un sujet intéressant. Pour les parents qui nous écoutent, qui parfois inconsciemment, et j'en suis aussi, donc je fais parfois peut-être des erreurs par rapport à ça, influencent les enfants d'une certaine façon avec des mots, avec des attitudes par rapport à la nourriture. C'est difficile hein, d'avoir le ton juste, d'avoir l'action juste par rapport à ça et de se dire je suis pas en train de lui faire entendre raison par rapport à ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire par rapport à la nourriture.
Oh ben oui, bien sûr. Et puis moi j'adorais hein, quand ma mère me disait quand je mangeais pas, mange au moins ta viande.
Ouais,
maintenant j'entends les parents, mange au moins tes légumes.
Ah oui, oui.
Et donc tout ça a évolué. Mais donc j'ai repris, c'était intéressant, c'est une publication d'un médecin hollandais mais qui travaille à Gand et qui est un certain docteur, je vais retrouver son nom, le docteur Van Dorp, hein, le docteur du village, qui parle des mythes alimentaires.
Oui.
Et il démolit ou il détruit les mythes alimentaires. Alors, il y a quatre mythes. Le premier mythe, c'est qu'il faut manger toutes les 2-3 heures pour maintenir son métabolisme à niveau élevé. Ben, c'est faux. En mangeant seulement 2 fois par jour, le métabolisme est renforcé. Et donc, on montre même que les muscles fonctionnent mieux si on mange que 2 fois par jour. Deuxième mythe, il est important de prendre un bon petit déjeuner. Hein, on dit ça même si les gens veulent maigrir, on leur dit ben, il faut bien manger le matin, hein, c'est important. Eh bien non, parce que si vous n'avez pas faim le matin et que vous prenez un bon petit déjeuner, l'étude montre que le midi, vous n'avez pas moins faim parce que vous avez pris un grand petit déjeuner, en tout cas chez les personnes qui ont excès de poids. Et donc, si vous ajoutez un petit déjeuner pour maigrir à ce que vous prenez en plus d'habitude, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Alors, le mythe numéro 3, c'est manger le moins de graisse possible. Eh bien, non. Non, parce que les graisses sont nécessaires. Alors, toutes les graisses ne sont pas bonnes, on le sait. Il vaut mieux de l'huile d'olive que du beurre, évidemment. Mais il faut savoir que c'est surtout les sucres qu'on doit diminuer. Et en particulier pour maigrir, les graisses sont proportionnellement moins graves que les sucres. Et puis, le quatrième mythe, le pain complet fait partie des sucres lents. Eh bien, pas du tout. Tous les pains, quels qu'ils soient complets ou pas, sont des sucres rapides et on le voit nous chez nos patients diabétiques qui souvent, quand ils ont mangé du pain, ont vraiment une augmentation de ce sucre. Voilà, un exemple bien. De quatre mythes qui nous mènent, auxquels on est habitué. Puis il faut pouvoir remettre les choses en jeu. Hein. On va pouvoir régulièrement faire table rase et réfléchir sur tout ça.
Absolument.
Et donc, mange plutôt tes légumes que ta viande. Et si tu es diabétique, ne mange pas de pain.
Voilà. Eh ben voilà. C'est très bien. Vous aviez votre place dans le sujet de ce jour qu'on continue d'aborder avec Marie-Pierre Preud'homme juste après le flash de 14h. Demain, pourquoi il est si difficile de parler de soi? Enfin, moi non. Vous non plus. Mais bon, pour beaucoup de personnes, c'est difficile de parler de soi. On en parlera demain avec Sylvie Capard-Blandel. À demain, docteur.
À demain.
Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est David Riffon qui nous informe.
Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Malgré son inculpation, il reste candidat pour les nouvelles élections qui vont être organisées à Neuchâtel. Dimitri Fourny le répète, il est innocent. Ce matin, le gouverneur du Luxembourg a annoncé que les dernières élections communales du 14 octobre étaient invalidées à Neuchâtel. Conséquence de l'affaire Fourny, une suspicion de fraude électorale aux procurations. 56 exactement pose problème dans un home pour personnes âgées géré par la commune. Or, le scrutin a été très serré, 16 voix d'écart seulement entre les deux listes principales. Du coup, les Chestrolais vont devoir revoter, sans doute avant l'été. Jusqu'à 600 euros d'amende, voilà les peines dont ont écopé plusieurs assesseurs ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. 19 d'entre eux étaient convoqués au total. Le parquet de Alvilvoorde leur avait proposé une transaction, 250 euros, mais certains n'ont pas voulu la payer ou se défendent en disant ne jamais avoir reçu les courriers leur demandant d'être assesseurs. Eden Hazard, 16 buts et 13 passes décisives cette saison, ne figure pourtant pas dans l'équipe de l'année en Première Ligue, équipe dévoilée par l'Association des joueurs professionnels. Pour la première fois depuis 2009, d'ailleurs, aucun Belge ne figure dans ce 11 type. Le club d'Eden Hazard, Chelsea, est stupéfait face à cette absence. Un oubli surprenant, selon les Blues. Eden Hazard qui vit une de ses saisons les plus abouties. Retour chez nous, côté ciel, cet après-midi, quelques rares éclaircies, mais également beaucoup de périodes nuageuses avec des averses, parfois nombreuses, parfois intenses. Un coup de tonnerre n'est d'ailleurs pas exclu. Les maxima entre 11 et 17 degrés et avec du vent. RTBF Mobile Info, David Godefroy, on part sur le grand ring de Charleroi, il y a un accident.
Oui, le ring 3 précisément, cet accident s'est produit sur le viaduc de Châtelineau, la bande de gauche est neutralisée. Il y a 3 km de fil en direction de Gouy, des fils aussi sur le 411 Namur-Luxembourg, entre Arlon et Sterpenich, 7 km de fil vers le Luxembourg, des ralentissements sur le 40 Aix-la-Chapelle-Liège autour de Welkenrad, vous perdez quelques minutes en direction de l'Allemagne. Et puis un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure, autour de Wemmel, la bande de droite est neutralisée vers Grand Bigard. Conséquence, vous perdez une trentaine de minutes dans les files, des files qui débutent à Vilvoorde en direction donc de Grand Bigard.
Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.
Sylvie Honoré, la vie du bon côté aujourd'hui, on s'interroge à comment nos parents influencent-ils nos goûts pour la nourriture?
Eh oui, comment nous parents? On pourrait influencer aussi ceux de nos enfants, notre relation à la nourriture. C'est important d'en parler. Merci David pour ce flash. Le prochain, c'est à 15h.
Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Avec Marie-Pierre Preud'homme, elle est coach humaniste spécialisée en troubles alimentaires. Comment faites-vous, Marie-Pierre, pour cerner un peu le problème? Parce que on sent qu'il y a quand même une certaine retenue de la part de nos auditeurs d'en parler ouvertement. Même s'ils nous envoient des messages, c'est difficile pour eux de prendre la parole. Donc il y a une retenue, c'est tabou, c'est difficile. Comment est-ce que vous allez chercher un peu la souffrance et d'où elle vient, d'où elle provient?
Donc moi j'ai plusieurs approches, je travaille beaucoup avec l'hypnose, donc j'ai des ateliers où on travaille à réguler et à pacifier la relation à la nourriture. Donc atelier je m'assis par hypnose, mais ça va bien au-delà de l'idée de m'assir. L'idée c'est vraiment de pacifier le comportement alimentaire. Donc on va travailler sur la relation aux autres et l'appétit, la gestion des émotions et l'appétit. Mmh. Donc il y a une première approche, c'est l'hypnose. Et il y a une approche aussi familiale avec des parents qui se posent questions, qui se remettent en question, qu'on a vu quand même certains témoignages ici qu'on reçoit, où des parents se demandent mais comment est-ce que je peux faire quelque part pour modifier mon comportement et les interactions avec mes enfants. Je remarque que la relation entre nous n'est plus adéquate au sujet de la nourriture. Et là, c'est plus un travail au niveau de la systémique, au niveau des relations familiales pour remettre en place une dynamique saine et pouvoir refaire confiance à son enfant et mettre des choses en place pour que lui aussi puisse sentir les choses et se faire confiance, puisque ce qui vraiment dérégule le comportement alimentaire, c'est à partir du moment où on veut y placer trop de contrôle, que ce soit contrôle qui vient de soi, contrôle des parents, et puis aussi contrôle de tout le marché
et de la société. Vous savez quoi? On a une maman, justement. On en a une maman qui accepte de témoigner. Martine, bonjour.
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 Bonjour, Martine. Vous voulez reconnaître parfois que vous êtes maltraitante envers votre fille, c'est ça?
Ah bah oui, clairement. Je dis, oui. Pas tout le temps, mais oui, depuis un bout de temps, quand elle a nourriture, je suis maltraitante, je ne vois.
Parce que... vous avez peur pour elle? Vous avez peur pour... Quel âge est-ce? C'est une adolescente?
C'est une... Elle a 12 ans.
Pré-ado, oui.
Mais elle n'est pas du tout... elle n'est pas du tout en surpoids. Donc, même quand elle va à la visite médicale, on ne dit rien du tout sur son poids.
Oui.
Mais je vois qu'elle grossit quand même plus qu'anormalement. Et j'ai peur. J'essaye qu'elle contrôle son poids, qu'elle contrôle ce qu'elle met dans sa bouche, mais plus j'essaye...
Vous...
Oui, justement, je vois ces troubles qui s'accentuent. Et je me sens mal par rapport à ça.
Oui. Vous ne savez pas comment réagir, c'est ça? Est-ce que...
Mais oui, mais je le fais mal. Évidemment que je le fais mal, parce que je le fais avec toutes mes peurs, toutes mes craintes. Et je vois bien que je n'arrive pas à avoir du recul. Je vois bien que je suis super dure. Et ça arrive souvent qu'elle se mette à pleurer, que les repas deviennent quelque chose de... plus cool, quoi, ce n'est plus relax, et je le fais souvent, oui. Et c'est plus fort que moi, parce que après je lui dis que c'est parce que j'ai peur, mais je l'ai quand même fait. Et avant, c'était une petite fille bien dans sa peau, et là maintenant je la vois, elle tire sur ses t-shirts, quand on lui propose à manger, elle me regarde avant de dire oui, et je vois que j'ai déréglé ça, je le vois. Et quand je vous entendais, je me dis, ok, on parle à l'âge adulte, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas en arriver là, parce qu'elle a encore que 12 ans, j'espère que ce phénomène, c'est pas irréversible, que j'ai pas vraiment mal fait, parce que là, je suis la plus malheureuse des mères.
Je comprends parfaitement votre message. Donc, elle se trouve maltraitante hein, envers. Elle a voulu changer sa voix. Hein, donc, encore une fois, oui. Martine n'est pas son prénom. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses difficiles à dire. Donc, elle se trouve maltraitante envers sa fille. Elle a peur pour elle. Elle a peur pour son futur. Elle dit dans son message, je vois bien que les ados sont durs entre eux aussi. Elle a 12 ans et je vois bien que je lui induis des complexes. Elle tire sur son t-shirt, elle me regarde quand elle mange. J'en suis triste. Je me demande comment lui rendre le contrôle de son alimentation.
Oui, déjà l'idée de contrôle. Hein, c'est comme si elle doit prendre le contrôle et puis c'est la fille qui doit prendre le contrôle.
Donc déjà ces mots-là, c'est difficile. Ouais.
C'est-à-dire,
En même temps, chacun a droit à son contrôle sur ce qu'il mange.
En se disant que la nourriture, c'est quelque chose qui se gère naturellement et à partir du moment où on veut contrôler, c'est là que ça pose problème. Mais je suis admirative.
Oui, donc s'il y a contrôle, c'est qu'il y a malgré tout un malaise.
Voilà,
c'est ça que vous
voulez dire. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je suis admirative de cette personne qui ose se poser cette question.
Fait,
et là,
je
crois que c'est vraiment déjà un grand pas. Donc par rapport à ce qui est à faire, moi, des demandes comme ça, je travaille ça avec la famille, avec la maman et l'enfant qui est concerné. Si c'est une famille classique, si le papa est là, c'est vraiment travailler au niveau des interactions pour assainir les interactions et revenir à quelque chose qui soit pacifié.
Oui. Mais c'était la question de cette auditrice d'ailleurs dans son message, c'est qui dois-je consulter? Qui peut nous aider? Est-ce que c'est un spécialiste comme votre invité? Est-ce que c'est un diététicien? Est-ce que c'est un psychologue?
Disons que la question de la diététique, ici, pour moi, je ne pense pas qu'elle sera adéquate puisqu'on se dit il n'y a pas de problème.
C'est complémentaire, la diététique, de toute façon, c'est l'après, c'est la suite. Mais d'abord, c'est voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a contrôle, pourquoi est-ce qu'il y a malaise.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, je travaille ça sous un axe familial.
Et vous voyez donc les deux.
Tout à fait, oui, en même temps.
Et séparément et en même temps.
En même temps, toujours en même temps. Maman et l'enfant, le plus de personnes possible de la famille, mais de la famille réelle. On ne va pas recomposer des familles qui sont séparées dans le cadre d'une thérapie. Mais ce sont les personnes qui vivent ensemble pour comprendre les interactions et rétablir un équilibre.
Donc vous faites ça encore actuellement avec les. Et il y a des mamans
ah,
qui
viennent
beaucoup. Et de cet âge-là pour leur fille pré-ado pour.
Oui, c'est ça. Oui, c'est très classique comme âge parce que le corps se transforme, la jeune fille se pose questions.
Et puis on voit les complexes aussi qui apparaissent.
Exactement. Oui. Et c'est aider cet ado à grandir, à prendre sa place. Voilà, très complexe, mais en tout cas, il faut garder l'optimisme. On s'en sort Et voilà, on redémarre sur ouais. de toutes bonnes bases et on apprend de ça, on apprend de ce passage-là et on en sort grandi.
Merci à vous en tout cas d'avoir pris la parole, pas facile. Vous êtes, quand vous dites que vous faites des ateliers région liégeoise, mais où exactement? À
Jemep, 4100 Jemep, en région liégeoise.
À Jemep, Marie-Pierre Preud'homme, coach humaniste et spécialisée en troubles alimentaires, 070 23 33 23. SMS 3063, 50 centimes par message envoyé. Je crois que c'est intéressant, encore une fois, d'avoir son avis si vous voulez témoigner. Marc Ronson sur Vivacité. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur la relation à la nourriture parce qu'on n'a pas encore évoqué le chapitre et c'est important d'en prendre conscience aussi des enfants qui refusent de se nourrir et de l'anorexie oui. qui peut se développer un peu plus tard. Ça, c'est aussi quelque chose oui. d'extrêmement important, Marie-Pierre.
Il y a énormément d'aspects hein, par rapport ouais. aux enfants qui refusent de se nourrir. Je crois que le premier réflexe à avoir, c'est quand même d'investiguer au niveau purement physiologique. Étrangement, il y a des enfants qui peuvent avoir des douleurs et qui n'osent pas l'exprimer, même dans une famille qui est très très bienveillante. Donc, investiguer au niveau physiologique. Il y a des enfants qui calent par rapport à certains aliments où ils ont restreint. Ils ne mangent que 2-3 catégories d'aliments et ils se ferment complètement par rapport à d'autres aliments. Donc ça, on s'est travaillé par technique comportementale avec et par hypnose et aussi au niveau de la dynamique familiale. Mais un petit truc quand même pour des enfants qui se figent par rapport à, je sais pas, certains légumes ou à certains types d'aliments, c'est avant de vouloir leur faire manger ça, c'est qu'ils puissent apprivoiser l'aliment. Donc on va un petit peu cuisiner avec, les faire jouer avec les aliments, parce que il faut pas oublier que manger, c'est quand même une intrusion, on fait rentrer l'aliment à l'intérieur de soi. Et donc avant de faire rentrer l'aliment à l'intérieur de soi, mais jouons et amusons-nous avec l'aliment. Et donc on peut confier à l'enfant de découper, d'agencer, de mélanger, et puis discrètement on tourne le dos, et ce qui arrive très fréquemment, c'est que hop, très discrètement, il goûte quand même un petit morceau, et on insiste pas et on lui fait prendre contact très 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 gentiment d'une autre façon avec l'aliment.
Tout à fait. Bonjour Marie.
Bonjour Sylvie, bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Vous mangez tout et comme vous en avez envie.
Oui, en aujourd'hui. Fait, tout oui, bien sûr. Tout a commencé il y a 40 ans. Ma belle-mère de l'époque, qui était une très belle femme, bien mince, qui avait eu 4 enfants, nous avait dit à mes belles-sœurs et à moi-même que c'est pas parce qu'on était une femme et qu'on allait avoir des enfants qu'on devait pas prendre soin de soi. Mmh. Et donc, on devait toujours rester tip-top pour soi-même et pour la personne qu'on avait épousée. Donc, j'ai toujours regardé à mon poids, tout en mangeant de tout, mais après chaque repas, je me pèse.
Ah oui.
Je me pèse pour voir qu'est-ce que je peux encore ingurgiter sur la journée en poids. Donc c'est même pas en calories, c'est en poids. Et donc, depuis 40 ans, j'ai toujours le même poids. Je suis toujours à 48 kilos.
Ouais, donc en plus, vous bougez pas, quoi.
Non, je ne bouge pas. Mais maintenant que arrive la ménopause, pour être toujours tip-top, je suis au sport. Au sport pour que mon corps reste toujours harmonieux.
Ça, c'est bien. Mais se peser aussi souvent, c'est vrai que c'est bizarre.
Je me pèse au matin en me levant, après avoir été aux toilettes, et après, à chaque fois que je mange quelque chose, oui, je me pèse.
Ah oui,
je sais, c'est obsessionnel, c'est... Voilà, c'est comme ça.
Ouais. Vous en avez déjà parlé à quelqu'un autour de vous, Marie, ou c'est parce qu'on fait des missions là-dessus?
Oui, hein, mes collègues et tout qui me disent que je suis folle, que c'est dans ma tête, que je ne dois pas vivre comme ça, mais voilà, c'est comme ça.
Marie-Pierre,
je n'en peux rien.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui se pèsent autant aussi
oui,
souvent?
Oui, mais qui s'en plaignent ici. Je ne sais pas si Marie.
Elle n'a pas l'air de s'en plaindre, hein, Marie.
Voilà.
Je ne me plains pas.
J'entends bien que si. Ce que j'ai peur, c'est que en effet, il y a la ménopause. Il y a peut-être des transformations qui vont se faire, de toute façon, envers son corps. Et ça peut déboucher sur de la souffrance, à un moment donné, Marie-Pierre. Parce que là, Là, elle s'en plaint pas parce qu'elle est gagnante à chaque fois. Puisqu'elle a le même poids. Elle n'a jamais.
C'est une stratégie de contrôle. C'est une illusion.
C'est une stratégie de contrôle. C'est
illusoire, évidemment. Et Marie le sait rationnellement. Je veux dire, si on mange 100 grammes de frites ou si on boit 100 millilitres d'eau, le résultat n'est absolument pas le même sur le corps. Mmh. Donc, c'est une stratégie de contrôle. C'est une façon de gérer de l'anxiété, du stress. Voilà. Enfin, pour moi, il y a d'autres choses qui sont là en amont. Hein. Ça, c'est juste. Ça montre. Mmh. Il y a autre chose en dessous. Maintenant, c'est de voir si Marie a trouvé son équilibre comme ça. Voilà, et que elle, ça lui convient. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ça empêche de faire des choses ou pas ?
Ça vous empêche, Marie, de faire des choses ?
Non, du tout. Si, par exemple, de la journée, je vais un repas, ou bien le soir, je vais à un repas, ou là, je vais manger un peu plus ou boire un peu plus, ben, les deux jours qui vont suivre, là, je vais vraiment me priver de nourriture pour que retrouver le poids idéal. Donc.
Quand même, ouais, pour ne pas bouger de vos 48 kilos.
On est vraiment dans l'obsession. Ouais.
Marie, voilà.
J'ai des enfants.
Ouais.
Et ma fille un jour m'a dit, maman, pourquoi tu n'as pas été aussi exigeante avec moi ? Et je lui ai dit, non, jamais. Jamais.
Chapeau, hein.
Parce que moi, c'est dans ma tête. Il y a été un jour, j'avais arrêté de fumer. Ouais. J'ai arrêté de fumer pendant 6 mois. Et ma belle-sœur m'a dit, regarde comme tu es devenue grosse. Et j'avais pris 3 kilos.
Oui,
j'ai refumé.
Vous parliez de belle-mère, maintenant votre belle-sœur. Marie, c'est vous, hein, d'abord. C'est vous. C'est vous. Ouais, à vous. Enfin, Marie-Pierre, je donne
voilà,
pas de conseils.
Voilà, tout est dit, Sylvie. Hein. C'est revenir à soi.
Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Hein, c'est faut pas faire attention non plus à ce que les autres disent. Parce que j'entends votre question. Si elle le vit bien et que ben voilà c'est une habitude qu'on a pris comme une autre. Il y a des personnes qui vont se priver de quelque chose en disant ben voilà comme ouais. Ça je sais que je reste toujours à 48. Bon ben elle quelque part elle le fait aussi, mais c'est faire attention à ce qui
voilà
ce
c'est
se
ça
dit.
Il y a quand même quelque chose au niveau de l'image de soi qui est
de l'image de soi. Ouais. Ouais. C'est quand c'est trop, hein, encore une fois quand c'est trop.
Ouais.
Ça devient obsessionnel, obsédant.
Et chapeau de ne pas avoir
de
transmis,
pas
ça,
avoir transmis
hein, et d'avoir
ça
fait la part des choses. Je vis ça, mais je fais attention à mes enfants.
Pas facile. Pas facile. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir, on a encore des choses à dire par rapport à ce sujet. Vivacité. Spando Ballet. Waouh, avec Joe. Les années 80 sur Vivacité. Dans la vie du bon côté, comment nos parents influencent-ils notre relation à la nourriture ? Qu'est-ce qui fait que certains se ruent vers la nourriture, d'autres la savourent ou que d'autres ne sont pas du tout attirés par elle ? Vous parliez tout à l'heure en effet de les enfants qui bloquaient sur certains points. Il y a des peurs aussi d'aliments qui ont peut-être fait vomir.
Exactement, il peut y avoir une peur de
vomir. On n'ose plus en manger.
Avouée ou pas avouée, mais c'est une phobie qui est quand même assez étonnamment fréquente, cette peur de vomir.
Bon, les cas d'anorexie sont évidemment à prendre en considération dans le cadre d'une thérapie familiale.
Oui, hein, c'est familiale.
Ouais, ouais.
Ça, très très certainement.
Oui, ça c'est des choses, on a toujours peur, bien sûr aussi en tant que parent, de voir un enfant qui veut rester très 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 mince, trop mince.
C'est ça, et là il y a vraiment le refus de se nourrir qui est quand même pas du tout anodin et qui est en lien quelque part avec la mort, hein, ne plus se nourrir.
J'ai envie de revenir un peu sur le cas de Stéphanie. C'est vrai, tout à l'heure, Stéphanie a dit que sa maman l'avait privée de beaucoup de choses. Et je pense que nous, les parents, on est plus dans la privation de certaines choses qui nous font peur. Vous savez, tout ce qu'on entend aussi, hein, un jour, ça, c'est pas bon. L'autre jour, si, finalement, c'est bon, mais ça, c'est plus bon. Donc, c'est vrai qu'on veut bien faire et on se dit... On essaie d'interdire ce qu'on nous demande d'interdire.
Voilà,
la société
je pense
a
que
des dictats.
L'idée, c'est plus d'aller vers ajouter des choses. Et à partir du moment où on ajoute de bonnes choses, ben, fatalement, il y aura moins de place pour d'autres. Mais la notion d'interdire, voilà, laissons ça de côté
oui.
Et allons vers allons vers des légumes, allons vers des fruits, allons vers de vrais aliments. Moi, c'est toujours ce que je prône dans les ateliers. Oui. Être dans le oui. J'ai envie de manger une pizza. Ben, bien sûr, une pizza, c'est pas un poison. Mais il y a certains endroits où je n'irai pas. Il y a certains endroits où j'irai manger une pizza. Donc l'idée,
et vous n'en mangerez pas matin, midi et soir.
Exactement. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Et donc il y aura une sélectivité, une recherche de qualité. Donc être le plus possible dans le oui et dans l'ajout. Pensez à ajouter des choses à votre alimentation.
Ça prend longtemps de suivre peut-être des ateliers ou voyez des
alors c'est très variable, ouais, hein, très variable
en fonction de la croyance qui est imprégnée ou pas.
Voilà, il y a tellement de paramètres qui interviennent et on peut avoir des difficultés avec l'alimentation depuis tellement d'années.
Oui, ben voilà, ça concerne tout le monde encore une fois, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, et c'est ça qui est important de souligner. Alors c'est sûr que c'est pas facile. Peut-être que des personnes vont venir avec d'autres problèmes.
Exactement. Ce n'est qu'une porte d'entrée.
Parce que c'est pas flagrant. Oui.
Hein, voilà. C'est se dire, bah, problème au niveau de la relation à la nourriture, ce n'est généralement que un symptôme, tout en mettant le queue entre gros guillemets, parce que ce n'est pas pour ça que ça ne fait pas souffrir, bien au contraire, mais c'est bien de se dire un problème de relation à la nourriture égale quelque chose d'autre sous-jacent qui est problématique, problème émotionnel, problème relationnel. Et quand on regarde dans la relation parent-enfant, quand il y a un problème avec la nourriture...
Je suis dépassée par le temps, je vais devoir vous dire au revoir Marie-Pierre, j'ai pas vu l'horloge. Allez, retour
à
suivre.
Allez, la suite bientôt.
Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.